Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 28 juin 2022. Jean-Roger Bion à ce micro, bonsoir à tous. À la une de nos informations. Ici aux États-Unis, c'est le choc après la mort d'une cinquantaine de migrants clandestins dans un camion surchauffé au Texas. À la fin de son sommet en Allemagne, le G7 va étudier un plafonnement du prix du pétrole russe et le sommet de l'OTAN prend le relais demain à Madrid. Crise en Libye, l'ONU tente encore une fois de relancer le processus électoral qui est bloqué depuis plusieurs mois. Au Burkina Faso, 8 civils ont été tués lors d'une attaque attribuée à des djihadistes pendant un baptême. Ne manquez pas dans cette session d'information la minute éco et les sports, mais tout d'abord, le journal. 46 corps ont été découverts hier à San Antonio, au Texas, dans la remorque d'un camion qui transportait des migrants clandestins. Le président Joe Biden, qui est à Madrid pour un sommet de l'OTAN, suit de très près ce nouveau drame. Son homologue mexicain Andrés Manuel López Obrador affirme que le bilan est monté à 50 morts, dont 22 Mexicains. Nathalie Barge.
Une soixantaine de pompiers ont été mobilisés pour prendre en charge les dépouilles. 16 rescapés, dont 4 enfants, épuisés par la chaleur, ont été pris en charge dans des hôpitaux, a indiqué lors d'une conférence de presse le chef des pompiers de San Antonio, Charles Hood, précisant qu'il n'y avait pas d'eau dans le véhicule. Le chef de la police de la ville, William McManus, a indiqué que 3 personnes ont été interpellées. Le ministère de la Sécurité intérieure a annoncé l'ouverture d'une enquête fédérale pour soupçon de trafic d'êtres humains. Le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, a précisé que le consul s'était rendu sur place. Cela illustre une fois de plus le besoin crucial de voies légales sûres pour les migrations, a déclaré à Genève Ravina Shamdazani, porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme. En 2017, 10 migrants avaient péri dans une remorque surchauffée jusqu'à 65 degrés Celsius sur un parking de supermarché près de San Antonio. Le conducteur du camion a été condamné à la prison à vie.
À la fin du sommet du G7 en Allemagne, les dirigeants ont convenu de mettre en place un mécanisme de plafonnement du pétrole russe afin de frapper une importante source de revenus de Moscou, a dit un haut responsable de la Maison-Blanche. Le point avec Abdourahman Dia.
Le G7 va demander au ministre de travailler d'urgence à l'élaboration d'un plafonnement des prix du pétrole en consultant les pays tiers et le secteur privé dans le but de mettre en place un tel plafonnement, a assuré ce responsable de l'administration Biden au dernier jour du sommet. Il s'agit donc d'un accord de principe sur la mise au point de ce mécanisme inédit et complexe qui viserait à empêcher la Russie de vendre son pétrole au-delà d'un certain prix dans le cadre d'une série de mesures visant Moscou depuis l'invasion de l'Ukraine. Les dirigeants du G7 ont aussi exhorté les pays et les entreprises disposant d'importants stocks alimentaires à aider à atténuer la crise déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Par ailleurs, ils se sont accordés sur la création d'un club climat destiné à renforcer et à élargir la coopération dans la lutte contre le réchauffement climatique. Enfin, le G7 a accusé ce mardi la Chine de pratiques qui faussent l'économie mondiale. En marge du sommet, le président Biden a reçu son homologue sénégalais Macky Sall, qui assure également la présidence de l'Union africaine. Au menu de leur discussion, l'initiative américaine sur les infrastructures de 600 milliards de dollars et l'implantation prochaine au Sénégal d'une usine de fabrication de vaccins anti-Covid et contre d'autres maladies.
Le président américain Joe Biden est arrivé aujourd'hui à Madrid, en Espagne, où il va participer à un sommet de l'OTAN. Les États-Unis vont faire des annonces spécifiques sur de nouveaux engagements militaires sur terre, en mer et dans les airs à long terme en Europe, en particulier dans l'est du continent, a dit ce mardi un haut conseiller de Joe Biden. Jake Sullivan, principal conseiller diplomatique et militaire du président américain, a indiqué à bord d'Air Force One qu'un certain nombre de pays de l'Alliance allaient également promettre d'augmenter leur contribution en matière de défense sur le plan oriental. Le président américain a quitté en fin de matinée l'Allemagne où il avait pris part à un sommet du G7. Joe Biden est arrivé donc à Madrid où, je l'ai dit, il va participer à un sommet. Des pourparlers indirects entre Américains et Iraniens sur le dossier nucléaire iranien avec l'Union européenne en tant que médiateur ont débuté ce mardi au Qatar après 3 mois de blocage de négociations à Vienne. L'envoyé spécial des États-Unis, Robert Malley, et le négociateur iranien Ali Bagheri sont arrivés dans la journée dans la capitale du Qatar, pays qui a joué le médiateur dans plusieurs dossiers internationaux. Les discussions en Autriche, entamées en avril 2021, sont destinées à réintégrer les États-Unis à l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015 et à ramener l'Iran au respect intégral de ses engagements dictés par ce pacte.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Drame de Melilla, l'ONU accuse le Maroc et l'Espagne d'usage excessif de la force qui s'est traduit par la mort de dizaines d'êtres humains, a dénoncé ce mardi le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric. C'est inacceptable, ce drame doit faire l'objet d'une enquête, a ajouté le porte-parole lors de son point de presse quotidien, en précisant que le recours excessif à la force a été vu par l'ONU des deux côtés de la frontière. À la demande du Kenya, le Conseil de sécurité de l'ONU doit tenir demain mercredi une réunion à huis clos sur les événements survenus à Melilla. Au moins 23 migrants ont péri et 140 policiers ont été blessés, selon les autorités marocaines, lors de la tentative d'entrée vendredi de quelques 2000 migrants à Melilla. L'ONU a lancé ce mardi aux responsables libyens un appel à un effort décisif et courageux pour sortir de l'impasse sur les élections lors de pourparlers qui débutent à Genève entre institutions rivales. Le point avec Rosine Monezero.
Le président de la Chambre des représentants, Aguila Saler, et le président du Haut Conseil d'État, Khaled El-Meshri, se rencontrent mardi et mercredi au Palais des Nations Unies pour discuter du projet de cadre constitutionnel pour les élections. Selon la conseillère spéciale du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Stephanie Williams, les deux responsables devront trouver un consensus sur le calendrier, les modalités et les grandes étapes pour garantir la tenue d'élections nationales aussi tôt que possible. Des scrutins présidentiels et législatifs devaient initialement se tenir en décembre 2021, mais ont été reportés en raison de fortes divergences entre rivaux politiques et des tensions sur le terrain. Deux gouvernements se disputent depuis mars le pouvoir. Le mandat du gouvernement basé à Tripoli, dirigé par l'homme d'affaires Abdelhamid Deiba, a théoriquement expiré le 22 juin, au terme de l'accord conclu sous l'égide de l'ONU.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, 8 écoliers et le chauffeur de leur minibus sont morts mardi dans un accident de la circulation à Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu. Le minibus était en stationnement en train de déposer les enfants qui rentraient de l'école et était arrivé à destination quand il a été percuté par un camion, a fait savoir Joseph Muniabeni Nyembo, le bourgmestre de la commune de Kadutu dans le sud de Bukavu. Au Burkina Faso, 8 civils ont été tués hier lundi dans l'Est lors d'une attaque de djihadistes présumés pendant un baptême. Le point avec Claire Morin-Gibou.
Une attaque terroriste a fait 8 morts parmi les populations civiles à Sandiaga, dans la province du Koulpelogo, dans l'Est, selon une source sécuritaire. Le bilan a été confirmé par un habitant de la région qui a précisé que les victimes assistaient à un baptême lorsque des individus armés ont fait irruption le matin, tirant sur plusieurs personnes. 2 autres incidents ont également eu lieu dimanche à Boulonga et à Alga dans la province du Bam, dans le nord, selon une autre source sécuritaire. Des charrettes transportant des femmes ont sauté sur des engins explosifs, faisant 6 morts et 2 blessés. Le 20 juin, l'armée burkinabé a décidé de la création de 2 zones d'intérêt militaire où toute présence humaine est interdite. L'une dans la province du Soum, frontalière avec le Mali, et l'autre qui regroupe des réserves protégées entre Pama et le parc du W, réputé être des repères pour des djihadistes.
La justice égyptienne a condamné à mort 10 djihadistes pour terrorisme. Tous les condamnés accusés d'être liés au groupe djihadiste, connu sous le nom de Brigade El-Wan, ont été reconnus coupables d'actes de terrorisme et d'avoir notamment ouvert le feu sur un véhicule de police, selon la justice égyptienne. Et puis l'armée éthiopienne a démenti ce mardi avoir exécuté 7 soldats et un civil soudanais capturés à sa frontière avec le Soudan, comme l'en a accusé Khartoum la veille. L'armée fédérale éthiopienne a su qu'ils ont affronté une milice locale et non des soldats soudanais absents dans la zone. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Claire Morin-Gibou.
Au Niger, le projet de gazoduc transsaharien est remis en marche. C'est félicité Mahaman Sani Mahamadou, le ministre nigérien du pétrole. Long de 4128 km, le gazoduc transsaharien prendrait sa source au Nigeria et traverserait le Niger pour rejoindre la côte algérienne à des fins d'exportation vers l'Europe, précise l'agence APA. Un comité de pilotage se réunira à Alger fin juillet. Les ministres des Finances d'Afrique de l'Ouest et Centrale appellent à des réformes urgentes dans l'éducation à la suite d'une réunion à Accra, au Ghana, hier, à l'occasion du lancement de la stratégie d'éducation régionale de la Banque mondiale. 18 ministres des Finances et de l'Éducation d'Afrique de l'Ouest et Centrale ont lancé un appel urgent à l'action. La Banque africaine de développement a validé la création de la Fondation africaine pour la technologie pharmaceutique qui devrait améliorer l'accès aux technologies de fabrication de médicaments, de vaccins et d'autres produits pharmaceutiques. Le président de la BAD a déclaré que l'Afrique devait se doter d'un système de défense sanitaire basé sur la relance de l'industrie pharmaceutique africaine et la mise en place d'infrastructures de soins de santé de qualité.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Athlétisme pour commencer, sanctions alourdies pour Blessing Okagbare.
Oui, la sprinteuse nigériane a vu sa suspension antidopage passer de 10 à 11 ans à cause d'un nouvel élément dans son dossier, selon l'unité d'intégrité de l'athlétisme. Blessing Okagbare, vice-championne olympique du saut en longueur en 2008, avait d'abord été suspendu provisoirement et exclu des JO de Tokyo, juste avant les demi-finales pour dopage à l'hormone de croissance. Début octobre 2021, l'athlète de 33 ans avait été de nouveau épinglée pour un contrôle positif à l'EPO. Elle avait alors été suspendue 10 ans en février pour multiples usages de produits prohibés, mais aussi pour son refus de coopérer avec l'enquête. Cette fois, l'unité d'intégrité de l'athlétisme lui reproche d'avoir esquivé un contrôle antidopage le 13 juillet 2021 à Jacksonville, en Floride.
Des nouvelles de transfert en football.
Romelu Lukaku est à Milan pour finaliser son retour à l'Inter sous forme de prêt, selon Giuseppe Marotta, administrateur général de l'Inter Milan. Des médias anglais et italiens assurent que Chelsea et l'Inter Milan ont trouvé intérêt d'entente pour permettre le retour en Italie de l'international belge de 29 ans. Un an après avoir vendu Lukaku pour quelques 115 millions d'euros, l'Inter devrait débourser 8 millions d'euros hors bonus pour obtenir un prêt d'une saison. Fer de lance de l'Inter sacré championne d'Italie en 2021, le puissant buteur ne s'est jamais imposé chez les Blues, laissé souvent sur le banc par l'entraîneur Thomas Tuchel.
En basketball, Joel Embiid toujours en quête de la nationalité française.
Oui, l'intérieur des Sixers de Philadelphie, né à Yaoundé et âgé de 28 ans, a fait sa demande de nationalité et il espérait l'avoir pour pouvoir jouer en équipe de France. Aux dernières nouvelles, il est encore dans ce processus-là, confirme le manager général des Bleus, Boris Diaw. Mais l'éventuelle naturalisation de Joel Embiid ne lui garantirait pas pour autant un accès direct à l'équipe de France, selon le manager général des Bleus. Les premières approches d'Embiid auprès de la Fédération française de basketball datent de 2016. Révélées 2 ans plus tard, elles avaient suscité des réactions guère enthousiastes, l'arrière Ivan Fournier estimant notamment que jouer pour un pays avec lequel tu n'as pas d'attache, c'est dérangeant.
À NBA, Kyrie Irving restera chez les Nets lors de la saison prochaine de basketball.
Le meneur star de Brooklyn affirme qu'il va lever l'option pour rester une saison de plus au sein de la franchise NBA. Kyrie Irving avait 2 jours pour lever cette option qui lui garantit un contrat de 37 millions de dollars pour une 4e année chez les Nets, Le basketteur de 30 ans est arrivé à Brooklyn en 2019 en provenance des Boston Celtics. Le meneur américain qui tourne depuis 3 saisons à une moyenne de 27,1 points et 6 passes décisives par match n'a disputé que 103 rencontres avec Brooklyn en raison de diverses blessures et son refus de se faire vacciner contre le Covid-19. Qualifiés pour les playoffs cette saison, les Nets ont été balayés par les Celtics 4-0 au premier tour.
Page des sports VOA Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Sénégal, un tribunal de Dakar a relaxé hier 83 personnes arrêtées lors des manifestations de l'opposition du 17 juin. Cependant, beaucoup de Sénégalais s'offusquent de la condamnation pour les mêmes faits à une peine de 6 mois de prison avec sursis du député Détier Fall et celle d'un mois de prison avec sursis pour Ahmed Aïdara, maire de Guédiawaye. Le point avec notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
L'incompréhension est le sentiment le mieux partagé par beaucoup de Sénégalais suite au procès de la centaine de personnes arrêtées entre Dakar et d'autres localités après les manifestations du 17 juin. Incompréhension car le parti au pouvoir a tenu un méga meeting à Guédiawaye où le maire a été arrêté et condamné à une peine de prison avec sursis avec comme un des motifs l'interdiction de faire de la propagande en période préélectorale. Cheikh Ndiaye, la soixantaine révolue, guette les infos sur son téléphone. Pour lui, la justice a quitté les tribunaux.
Justice, vous croyez qu'une injustice ?
Pour moi, il n'y a pas de justice, mais plutôt une injustice. C'est mon sentiment et c'est selon moi le sentiment de plus de 90% des Sénégalais. Je ne suis pas d'accord avec ces peines. Dans un pays, quand les citoyens ne croient plus à la justice à cause des nombreux cas d'abus notés ça et là, on n'arrive plus à savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et on en est arrivé à ce point. Nous n'avons plus confiance en la justice et en ceux qui la disent. Donc, on ne peut plus être d'accord avec les sentences rendues par ces derniers.
Papa Wali Pen va plus loin et voit une justice à double vitesse au service de l'exécutif et de la politique.
Pour moi, quand on parle de justice au Sénégal, on parle de l'État et de l'exécutif, car c'est l'exécutif qui nomme ceux qui sont censés dire le droit, donc c'est l'exécutif qui rend la justice et cela devient de la politique. Ceux qui ont été arrêtés, ce sont des politiciens. Donc, pas de doute que la sentence soit politique, car quand la justice se mêle de la politique, c'est que la séparation des pouvoirs n'est plus respectée.
De son côté, Ousmane Niakhasso prie pour qu'on évite le pire, car selon lui, quand la balance de la justice flanche, c'est la stabilité du pays qui risque d'être remis en jeu.
La justice, comment que, en train de dérouler les choses, vraiment, moi, ça m'en fait peur. Hein. Moi, quand je vois une justice qui fait comme ça, hein, il y a certains pays, c'est ça qui les a ramené une guerre civile. Il faut que la justice soit indépendante.
Malgré les nombreuses condamnations sujettes à polémique, certains Sénégalais n'ont pas perdu espoir qu'un jour, le droit sera dit dans les règles de l'art. Seydina Abagay à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Nigeria, les églises font maintenant des contrôles de sécurité et des fouilles à l'entrée après l'attaque meurtrière du 5 juin contre une église catholique. Les experts en sécurité craignent que cette attaque dans l'état d'Ondo, dans le sud-ouest, signifie que la menace terroriste se propage et pourrait bientôt atteindre la capitale. Le reportage depuis Abuja de Timothy Obiezu, le récit est de Claire Morin-Gibou.
Les fidèles sont contrôlés à l'entrée de la Dominion Chapel à Abuja pour assister à la messe. Les gardes de sécurité de l'église et les agents de la police d'État effectuent les fouilles. La police d'Abuja a déclaré avoir souvent déployé des agents dans des églises, des mosquées et des lieux publics. Mais ce niveau de sécurité n'existe pas dans tous les espaces publics.
l'évêque John Praise Daniel est pasteur, président de la chapelle Dominion.
These days, people just become crazy and going to churches and start shooting.
Ces jours-ci, les gens deviennent fous et vont dans les églises et commencent à tirer. Donc, je pense que l'église doit arriver à ce niveau de sécurité et s'armer contre toute attaque qui pourrait arriver. C'est de la légitime défense et il n'y a pas de loi contre la légitime défense.
Le 5 juin, des hommes lourdement armés ont envahi l'église catholique Saint-Francis dans la ville d'Owo, dans le sud-ouest, et ont tué 40 fidèles. 87 personnes ont survécu, mais ont été grièvement blessées. Stephen Chucks, au Cognier, a survécu après avoir reçu une balle dans la poitrine.
Pour qu'un tel incident se soit produit, ait duré plus de 20 minutes et qu'il n'y ait pas eu de présence policière, cela signifie qu'il n'y a pas de sécurité dans ce pays. La sécurité est un domaine sur lequel le gouvernement doit se pencher.
Les autorités nigérianes ont accusé le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest d'avoir mené cette attaque, mais certains experts disent que c'était une conclusion hâtive. Les experts ont également déclaré que l'attaque était une indication que le terrorisme se propage dans le pays. La semaine dernière, des hommes armés dans la région de Kajuru, dans l'État du Nord de Kaduna, ont attaqué deux églises, tué trois personnes et enlevé 36 autres. L'association chrétienne du Nigeria a fait part de ses inquiétudes et à critiquer les autorités pour leur manque de protection et à exhorter les autorités ecclésiastiques à prendre des mesures plus strictes. Joseph Daramola est le secrétaire général de cette association.
L'Église dans son ensemble doit être consciente de la sécurité et être préparée. La personne à côté de vous est suspecte.
Le président Muhammadu Buhari a promis de lutter contre l'insécurité et de stimuler l'économie lorsqu'il a été élu pour la première fois en 2015. Son deuxième et dernier mandat touche à sa fin, mais les attaques comme celle d'Owo vont rester dans les mémoires alors que le pays se prépare à de nouvelles élections en février prochain.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Bénin, le conflit russo-ukrainien entraîne de véritables bouleversements dans tous les secteurs. Après le blé, c'est le secteur des hydrocarbures qui fait face à une flambée vertigineuse. De l'essence en passant par le gasoil jusqu'au gaz domestique, tout coûte extrêmement cher. Les détails avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Se déplacer à moto ou en voiture au Bénin est devenu un luxe. À la gare routière de Cotonou, les chauffeurs de taxi ne savent plus où donner de la tête.
C'est vraiment difficile parce que avec le temps, ce que nous vivons avec les clients, non, ce n'est pas du tout ça. L'augmentation du prix du carburant, c'est un peu déplorable. Là où on payait 100 francs, maintenant, si tu dis qu'il faut donner au moins 200, c'est difficilement quelqu'un peut te comprendre pour compléter 50 francs.
Supposons, c'est deux voitures qu'on a chargées, le matin jusqu'au soir. Aujourd'hui même, c'est le même. Tu as vu le cas? Il n'y a pas personne, il n'y a pas de la pluie.
Si les consommateurs acceptent les raisons de cette hausse, ils ne comprennent pas ce qui se passe avec les vendeurs d'essence de contrebande qui tiennent à rivaliser avec le prix à la station. De 350 francs le litre est passé à 650 francs. Aucune négociation n'est possible. C'est à prendre ou à laisser. Devant les bidons d'essence de contrebande, la colère est à son comble.
Du jour au lendemain, tu te lèves, tu vois la hausse des prix. Or, tu dois aller au boulot, tu as des tâches. Et sans un moindre déplacement, c'est compliqué à Cotonou. Si c'est que les stations même pouvaient être moins que ça, tout le monde ira à la station.
C'est à cause des douaniers. Les douaniers ne veulent pas qu'ils soient rentrés ici à Bénin. Ça reste seulement Niger et tout le monde va partir à la station pour payer là-bas.
Presque 10 ans que Ulrich Chahi a acheté sa moto et il a toujours roulé avec l'essence de contrebande. Aujourd'hui, devant les prix qui s'envolent, même sur ses étalages préférés, il se pose beaucoup de questions.
J'ai toujours pris de l'essence fluoratée parce que le prix de l'essence à la station ne m'arrange pas. J'ai quelque part où j'en prends à 325, 315 même. Ce matin, j'étais dans ces deux coins-là, je n'en ai pas eu. On va demander à nos dirigeants de faire vraiment quelque chose pour voir ce qui vraiment est à la base de cette flambée, de cette montée monstrueuse du prix de l'essence frelatée. Parce que notre train de vie du Béninois ne nous permet pas de prendre de l'essence à 600 francs le litre. On ne peut pas tenir.
La situation est encore pire au niveau du gaz domestique. Là encore, il faut payer le double, voire le triple pour pouvoir manger à sa faim.
Depuis quelques moments, nous avons constaté que le prix du gaz a pris de l'ampleur. Il y en a qui ont cherché dans la ville, mais il n'y en a pas.
Comment on va faire? Il n'y a pas l'argent dans le pays. Si vous augmentez le prix tous les jours comme ça.
Avant de trouver de l'argent, c'est difficile pour nous. Et encore, ils augmentent encore le tarif, sans vous mentir. Moi, je crois que je vais finalement laisser ma bouteille dans la chambre et peut-être commencer par utiliser du charbon, simplement. Les choses deviennent chères et il faut augmenter de tarifs sur les articles, sur les recharges, sur tout. Bon, on ne sait pas ce qu'il y a là-bas de ça concrètement. Sans vous mentir, le gouvernement nous rend la vie difficile. Parce qu'au jour le jour, on essaie de survivre. Mais malgré cela, les choses augmentent encore de prix. C'est pas la joie.
À ceux qui veulent retourner au charbon de bois, Anton Sagbo, défenseur de l'environnement, appelle à la retenue.
L'utilisation du gaz est mieux que le charbon de bois. Pourquoi? Parce que le gaz domestique émet peu de dioxyde de soufre, peu d'oxyde d'azote et 200 grammes par kilowatt de dioxyde de carbone, alors que le charbon de bois émet 400 grammes par kilowatt de dioxyde de carbone.
Pour contourner la concurrence déloyale, les vendeurs d'essence frelatée ont reçu des autorités l'ordre de vendre l'essence au même prix que les stations-service, ce qui pousse encore les consommateurs à demander au gouvernement de revoir sa copie. De Cotonou, Ginette Fleur-Adonné pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la Cour suprême des États-Unis, dominée par les conservateurs, révoque le droit à l'avortement au niveau fédéral et renvoie la balle aux États. Une décision qui annule un arrêt de près de 50 ans, suscitant la colère des partisans du droit à l'avortement et le soulagement de ceux qui s'opposent à cette pratique. Pourquoi la question de l'avortement reste un sujet clivant aux États-Unis? Comment cette décision de la Cour, après celle autorisant le port d'armes à feu en public, va-t-elle influencer le débat sociopolitique américain? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Pendant des décennies, les Américains ont été très divisés sur la question de l'avortement. La Cour suprême des États-Unis a révoqué ce droit vendredi dernier pour laisser chaque État choisir sa politique en la matière. Notre correspondante au Congrès, Catherine Gibson, examine l'impact de cette décision sur les élections clés de mi-mandat en novembre. La narration est de Yacouba Ouidraogo.
C'est l'une des décisions les plus importantes de l'histoire récente de la Cour suprême des États-Unis. Le renversement de l'arrêt Roe contre Wade met fin au droit à l'avortement et a renvoyé cette décision à chaque État. Le président Joe Biden a immédiatement réagi.
Nous devons restaurer les protections garanties par l'arrêt Roe en tant que loi du pays. Nous devons élire des députés qui le feront. Cet automne, Roe est sur le bulletin de vote. Les libertés individuelles sont sur le bulletin de vote.
Pendant plusieurs décennies, la question de l'avortement a toujours divisé les Américains. À l'époque, le président Donald Trump avait fait une promesse en 2016.
Je nomme des juges contre l'avortement à la Cour suprême. Cette question reviendra aux États.
Il a nommé 3 juges à la Cour suprême. Chacun d'eux avait promis que l'arrêt Roe contre Wade était une loi établie, mais on finit par voter pour le révoquer. Les républicains de la Chambre estiment qu'il y a plus de batailles à mener au niveau des États. Steve Scalise est un député républicain.
Le travail commence maintenant pour protéger encore plus de vies, car la décision de la Cour suprême annulant Roe contre Wade, corrigeant cette décision erronée, permet enfin aux États et au Congrès de protéger la vie d'une manière que nous n'avons jamais pu le faire au cours des 50 dernières années.
Et cela motive les jeunes électeurs conservateurs comme Anna Loulis.
Il est super important de pousser la législation contre l'avortement. Ce que vous allez voir avec une Amérique post-Roe est probablement une polarisation entre les États.
Dans un sondage de l'université de Monmouth publié le mois dernier, 48% des électeurs démocrates ont déclaré que les positions des candidats sur le droit à l'avortement seront un enjeu lors des prochaines élections de mi-mandat. Le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, dit s'attendre à ce que les républicains essaient d'imposer davantage de restrictions à l'avortement.
Élisez plus de républicains si vous voulez des interdictions d'avortement à l'échelle nationale. Élisez plus de républicains si vous voulez que les femmes et les médecins soient poursuivis. Élisez plus de républicains si vous voulez qu'une femme soit forcée de ne pas avorter, même si elle a été victime de viol et d'inceste.
On ne sait toujours pas à quel point la question dynamisera les électeurs. Annabelle défend le droit à l'avortement.
En théorie, Roe est sur le bulletin de vote. En réalité, il faudrait 60 sénateurs démocrates qui sont prêts à prendre des mesures pour mettre fin à l'obstruction systématique en s'assurant que cela est là pour rester.
Un sondage de Politico Morning Consult, réalisé après la décision de la Haute Cour, a révélé que 40% des Américains sont contre l'interdiction de l'avortement.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.